puis je savais que ce que je faisais, c'était pas correct. Je le savais très bien, mais ça m'arrêtait pas. Mon idée du corps parfait était beaucoup plus forte que mon envie d'être en santé, dans le fond.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant.
Épisode du balado santé sans rendez-vous par la faculté de médecine de l'Université Laval qui commence, et devant moi j'ai deux belles invitées que j'ai hâte de vous présenter. En fait, je dis vous présenter, mais je vais les laisser se présenter à vous. On parle aujourd'hui des troubles de comportement alimentaire, un sujet qui m'a touchée personnellement il y a de cela plusieurs années, et je trouve ça vraiment le fun que la faculté de médecine ait choisi de le mettre de l'avant. Donc, mesdames, à qui le tour en premier?
Je peux y aller. Bonjour, donc moi, c'est Anaïs Gavidia. J'ai 17 ans. J'ai commencé ma rentrée en soins infirmiers. Dans le fond, moi, je suis une patiente de Sacré-Cœur. Dans le fond, j'ai passé à travers les troubles alimentaires. J'ai commencé ma consultation en 2020 et j'ai officiellement fermé mon dossier en octobre 2023.
Félicitations.
Merci beaucoup.
Alors, moi, c'est Nathalie Gingras. Je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent et responsable de la clinique des troubles alimentaires au centre de pédopsychiatrie, là, ce qu'on appelle Sacré-Cœur également, là, au CIUS de la Capitale-Nationale. Et je suis également professeure à la faculté de médecine, là, comme médecin clinicienne enseignante au département de psychiatrie et neurosciences.
Et la raison, Dr Gingras, pour laquelle vous vous êtes dirigée vers la pédopsychiatrie?
Dans le fond, ce que j'ai découvert, bien, au départ, moi, j'aime beaucoup les enfants. J'ai toujours adoré les enfants. Donc, au départ, je voulais devenir pédiatre. Mais quand j'ai fait mes stages en pédiatrie, c'est là que j'ai découvert, en fait, il y avait une personne à l'époque qui était comme pédopsychiatre. Mais à l'époque, ce n'était pas encore une discipline reconnue. Mais donc, à voir la personne travailler, là, j'ai découvert ce monde-là. Et ce que j'ai découvert d'intéressant avec les enfants, les adolescents, c'est le potentiel de développement qui est vraiment intéressant. Donc, j'adore la psychiatrie en général, mais c'est merveilleux de voir comment les adolescents, les enfants ont ce potentiel-là devant eux de transformation, puis d'aller vers quelque chose, même si la maladie est sévère. Mm-hmm. Comme on peut voir avec Anaïs, bien, il y a quelque chose qui peut se développer. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se faire en adulte, mais je trouvais qu'avec les enfants, puis avec les adolescents, on trouvait ça encore plus. Puis le plaisir de travailler aussi avec les familles. Moi, j'aime beaucoup travailler en familial, là. Donc ça aussi, on retrouve ça plus en pédopsychiatrie. Des fois, certains vont moins apprécier parce que justement, il y a beaucoup plus de monde avec qui on est en interaction. Mais c'est tellement riche là, que ça vaut la peine, je dirais, pour ceux qui ont une envie d'aller vers ça. On en manque d'ailleurs au Québec des pédopsychiatres. Donc, pour ceux qui ont un intérêt, c'est de voir ce potentiel de développement-là et puis la richesse, comme je dis, là, des réseaux puis du travail en collaboration, là.
Entrons déjà dans le vif du sujet, les troubles de comportement alimentaire. Quand on dit ça at large, permettez-moi l'expression, des fois, il y a un mot qui nous vient en tête, c'est anorexie. Là. C'est le gros, on dirait, le terme le plus commun des troubles de comportement alimentaire, mais je veux démystifier c'est quoi concrètement cette appellation-là.
Effectivement, c'est un bon point parce qu'il peut y avoir plusieurs présentations à l'intérieur de ce même terme-là. Mm-hmm. Là. Donc, oui, effectivement, il y a l'anorexie là, qu'on entend peut-être un petit peu plus souvent parler, mais on a également les problématiques de boulimie. On a aussi chez les plus jeunes enfants ce qu'on appelle le trouble d'évitement alimentaire, qui est une présentation également chez les plus petits. Et on a aussi le trouble d'hyperphagie. Donc, juste pour différencier un petit peu rapidement, là, donc l'anorexie restrictive, c'est la personne qui est vraiment en restriction alimentaire avec aussi des comportements pour tenter de réduire son poids et essayer d'atteindre une certaine image corporelle. Et dans le cas de la boulimie, dans le fond, la personne peut avoir des périodes de restriction, mais il y a aussi des périodes de perte de contrôle avec des comportements où on va manger en grande quantité, puis après ça, des tentatives pour essayer de restreindre, finalement, suite à ces comportements-là. Puis si on regarde l'hyperphagie, pour comparer avec la boulimie, c'est que la personne va aussi être en sentiment de perte de contrôle avec un grand malaise intérieur aussi, mais n'aura pas les comportements compensatoires, là, t'sais, donc de faire de l'exercice, par exemple, ou essayer de se faire vomir, ou faire des comportements pour essayer de compenser la perte de contrôle. Puis finalement, chez le plus jeune, le trouble d'évitement alimentaire, c'est, ça le dit le mot, là, donc l'enfant qui évite l'alimentation, des fois par des peurs de vomir, qui a déjà vu, par exemple, quelqu'un vomir, ça, ça a causé comme une espèce de traumatisme. Alors, chez ces enfants-là, il y a cette espèce de restriction alimentaire-là. Chez les petits, mais il n'y a pas la... Souvent, il n'y a pas associé... En fait, normalement, il n'y a pas associé la crainte de prendre du poids, tout ça qu'on va voir chez la personne qui a un trouble de type anorexie.
Et est-ce qu'un trouble de comportement alimentaire chez un enfant, comme ce que vous venez de l'évitement alimentaire, est-ce que ça peut entraîner par la suite des troubles de comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie, où il n'y a pas vraiment de lien à faire entre les deux?
Bien, c'est un très bon point. En fait, effectivement, il peut y avoir une évolution vers une problématique de type anorexie. Donc, c'est à surveiller. C'est important d'intervenir. En fait, dans la majorité de ces problématiques-là, plus on intervient tôt, mais meilleure est notre évolution, donc meilleure, on va éviter finalement justement de la cristallisation ou des comportements à plus long terme. Là.
Et quand vous agissez auprès d'un enfant, c'est quoi le cheminement que vous faites avec cet enfant-là?
Bien, ce qui est important, premièrement, c'est comprendre qu'est-ce qui fait que l'enfant se trouve dans cette situation-là. On travaille beaucoup avec les parents aussi pour aider, parce que les parents sont finalement une des ressources importantes pour essayer de comprendre la situation de leur enfant. Et puis, dans le fond, un peu comme dans les autres problématiques, on va travailler aussi sur l'exposition, donc comment on s'expose à quelque chose qui nous fait peur. Alors, ça ressemble beaucoup au travail qu'on va faire avec des gens qui ont un trouble anxieux. Donc, si j'ai peur de quelque chose, ben je dois réussir à m'exposer face à cette situation-là pour finalement, à la longue, diminuer ma crainte ou diminuer ma peur. Donc, ça, c'est les principes d'exposition. Donc, on va bien les expliquer à l'enfant et aux parents. On travaille beaucoup en équipe avec les parents parce que c'est sûr qu'au quotidien, c'est eux qui sont régulièrement avec l'enfant. Puis, en général, l'enfant n'est pas motivé nécessairement à s'exposer à quelque chose qui lui fait peur, ce qui est tout à fait naturel. Là. Il n'y a personne qui a envie de s'exposer à quelque chose qui nous fait peur. Là.
Et là, on va rester dans l'enfant encore quelques instants avant de s'en aller vers le récit d'Anaïs que j'ai vraiment hâte d'entendre. Moi, je suis une maman là, d'un jeune enfant. Là, c'est pour ça que ça m'intrigue vraiment beaucoup, ces comportements alimentaires-là. Si... Il ne faut pas que je prenne panique si j'ai l'impression des fois que mon enfant ne veut pas manger tel ou tel aliment non plus. Il ne faut pas penser tout de suite qu'il y a un trouble de comportement alimentaire. J'imagine qu'il y a une distinction à faire. Là.
Oui, oui, c'est un très bon point. C'est-à-dire qu'on a tous vu, puis si on a eu des enfants, on a peut-être eu un enfant, par exemple, qui pendant une certaine période voulait manger juste du macaroni ou je sais qu'il y avait une...
Des craquelins.
Oui, c'est ça. Donc, on va voir ça. Là où on peut commencer à s'inquiéter, c'est quand il y a un impact sur sa croissance. Donc, si l'enfant se développe pas. Donc, soit qu'il y a un aplatissement de sa courbe de croissance, donc la taille, le poids ne se développe pas comme normalement. Là, à ce moment-là, on peut commencer à avoir des préoccupations, des inquiétudes ou à intervenir là, sans paniquer, là, parce qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. Mais oui, si on voit que notre enfant ne se développe pas comme normalement, versus un autre enfant, comme je dis, là, qui veut manger juste du macaroni, mais bon, globalement, il se développe bien, puis il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est sûr qu'éventuellement, on aime ça qu'il développe une variété. Quand même
l'exposer à plein d'aliments malgré le fait qu'il ne veut pas.
Oui, c'est ça.
Et si on s'en va vers l'adolescent, l'adulte, qu'est-ce qui va mener une personne à développer un trouble de comportement alimentaire? C'est quoi les... Il y a plein de raisons. Tout le monde a ses raisons, j'imagine, mais j'imagine aussi qu'il y a peut-être un tronc commun qu'on peut suivre?
Bien, en fait, il y a certaines caractéristiques qu'on peut retrouver autant dans les études puis en clinique, on va les voir. Mais en même temps, il faut pour chaque personne aller voir parce que ça peut varier quand même d'une personne à l'autre. Mais un coup qu'on dit ça, il y a des facteurs, par exemple, au niveau de la personnalité, on va trouver souvent des gens qui vont être attirés par la performance, qui ont un certain ascétisme aussi, un besoin finalement de... à la fois de performer, puis qui répondent pas nécessairement aux récompenses en général, mais qui sont plutôt... puis des gens un petit peu plus tournés vers l'intérieur, manque de confiance en soi, qu'on va retrouver aussi beaucoup dans les caractéristiques plus personnelles. Il y a des facteurs génétiques, donc c'est sûr que si dans la famille, il y a des gens qui ont eu des problématiques alimentaires, on va trouver donc ces traits de personnalité-là, souvent qui sont, ou de tempérament, qui sont comme, je dirais qu'on peut transmettre, là. Et ensuite, il y a des facteurs qui peuvent être En fait, ça a assez varié, là, mm-hmm. les facteurs qui peuvent arriver. Donc, on a vu, par exemple, la pandémie semblait être un facteur assez significatif. Je pense qu'Anaïs va peut-être en parler tantôt. comme étant un facteur qui a déstabilisé beaucoup les personnes dans leur ancrage. Donc, une personne, par exemple, qui est plus anxieuse de nature puis qui a besoin du sport pour s'actualiser puis diminuer son anxiété, c'est sûr que si on doit la priver parce qu'il a fallu fermer des piscines et toutes sortes de services, bien là, à ce moment-là, la personne a moins la capacité de s'actualiser. Donc, on pense qu'il y a plus de possibilités à ce moment-là de développer ce genre de trouble-là. Il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, bon, ben là, c'est le temps de me mettre en forme. Puis là, ils ont commencé finalement de la restriction des comportements. Puis un facteur qu'il faut vraiment garder en tête, c'est la dénutrition elle-même peut causer les symptômes de troubles alimentaires. Et c'est là que ça devient un petit peu comme une espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire que ça a été prouvé dans les études, si on dénutrit quelqu'un, donc...
C'est quoi de la dénutrition?
La dénutrition, ça veut dire si je me mets à restreindre mon alimentation, si je ne mange pas de façon suffisante par rapport à mes besoins, à ce moment-là, il se développe une sorte d'adaptation de notre corps et des changements vraiment physiologiques qui ont été observés et qui amènent des pensées anorexiques, qui amènent des pensées, finalement, en lien avec le trouble alimentaire. Ça, c'est très important à comprendre parce que du moment où on tombe dans cette espèce de pattern ou de cercle vicieux-là, ben, là, il faut que quelqu'un nous aide à sortir de là parce que le fait de restreindre augmente nos pensées, mais on est convaincu que ça nous fait du bien en même temps. Donc, on devient vraiment pris dans ce cercle-là.
Et le bon, vous êtes psychiatre, les troubles de comportement alimentaire, malgré le fait qu'il y a des conséquences physiques, on est vraiment dans les troubles de santé mentale. Est-ce que c'est ça?
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est une problématique qui est vraiment à cheval entre les deux, parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a vraiment des conséquences physiques au phénomène de dénutrition ou même au vomissement aussi qu'on voit dans la boulimie. Mais c'est vraiment en lien avec aussi une problématique au niveau psychologique, au niveau psychiatrique.
Est-ce que c'est vrai de dire que c'est majoritairement des femmes qui vont développer des troubles de comportement alimentaire?
Il faut faire attention parce qu'en clinique, effectivement, on voit beaucoup de personnes plutôt des femmes. Mais on voit aussi que les garçons ne consulteront souvent pas en clinique, mais on va les retrouver par contre dans par exemple des centres de gym, donc des gens qui vont avoir ce qu'on appelle l'anorexie inversée. C'est-à-dire qu'ils vont chercher, il y a une espèce de recherche du corps parfait, mais d'une façon différente, mais qui peut aussi amener des conséquences au niveau physique, qui peut avoir des problématiques aussi.
J'avais entendu le terme bigorexie. C'est-tu un vrai terme, ça?
Oui.
Qui se sent jamais assez gros. Justement, le go gym, l'espèce de typique image qu'on peut se faire du gars qui se trouve jamais assez gros.
Tout à fait.
Comment on appelle ça? Une dys...
je cherche... Dysmorphie.
Dysmorphie, c'est qui se voit pas comme les autres se voient, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est ça.
OK, parfait. Donc, Anaïs, on va compléter justement tout le bagage d'expertise avec ton récit. Je te laisse y aller. Puis, à travers ça, si vous avez, docteur, des compléments d'informations pour qu'on puisse... juxtaposer les deux, ce serait vraiment parfait.
Parfait. Moi, il faut savoir que cette maladie-là m'a apporté beaucoup une image de comparaison.
Okay.
Je me comparais avec tout mon entourage. Puis j'ai commencé très, très jeune. C'est ça que je trouve très difficile.
Parce que là, tu as 17 ans.
Oui.
Puis ça avait commencé quand tu avais...
Mettons, le moment où je me rappelle le plus que je sais quand j'étais jeune, c'était en quatrième année.
Okay.
Dans le fond, moi, j'ai grandi dans une famille où ce que l'alimentation était difficile. Il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui étaient en surplus de poids. Et ça fait que lors des soupers de famille, lorsque je les voyais, il y avait toujours la discussion de « je suis trop grosse ». Moi, je suis trop grosse, je suis pas belle, j'aimerais tellement perdre du poids. Puis, dans une petite tête d'enfant, ça rentre pas mal. Puis ça, moi, ça me chicotait, je pourrais dire. Puis j'ai eu cette image très vite de « ah, pour être belle, là, moi, il faut que je sois mince. Faut que je sois petite, c'est comme ça qu'on est considéré comme beau. » Puis il faut savoir aussi que c'était pas mal ça dans... La société aussi. Mm-hmm. Oui, on s'est beaucoup amélioré, certes, mais c'est encore beaucoup ça. Là, pour être belle, il faut être mince. Puis moi, j'étais très jeune, je voyais ça, puis j'y ai cru beaucoup. Donc, à partir de quatrième année, j'ai déjà commencé à couper mes repas. Surtout le déjeuner, je trouvais ça tellement plus simple. Puis
tu le faisais en pleine conscience, tu faisais ça pour ça.
Oui, c'est ça qui est très difficile. Moi, dans ma tête, je le voyais pas le mal. Dans ma tête, il ne pouvait pas avoir de problème qui venait avec ça. Moi, c'était vraiment plus dans l'intention, là, je veux pas manger, tu sais, j'aimerais ça être un petit peu plus mince. Puis au début, je voyais plus ça comme un genre de petit challenge, tu vois. Oui. Je voyais pas les répercussions. Ouais, exactement, que ça pouvait apporter sur moi. Puis dans le fond, le moment où ça a comme vraiment déclenché, c'est mon arrivée au secondaire que j'ai trouvé très difficile. Tout simplement, moi, c'est vraiment ça qui a comme déclenché, mais c'est l'arrivée sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Donc, les Instagram, les TikTok, les Facebook, les Twitter, c'est tellement facile de regarder puis de te comparer. Même si tu connais pas la personne, c'est vraiment, vraiment facile de regarder une photo puis de dire « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça avoir ces petites cuisses, ça serait tellement plus beau sur moi. » Puis moi, c'est vraiment ça qui a comme un peu chamboulé mon arrivée là, avec les réseaux sociaux et aussi mes...
Puis le fait avec le secondaire, c'est que c'est à ce moment-là que tu as eu accès aux médias sociaux?
Oui, exactement. Moi, avant, là, je voulais pas. Puis ma mère non plus voulait pas. Là, ma mère m'avait vraiment interdit d'avoir tout réseau. Puis c'est ça, quand j'ai eu l'opportunité, j'en ai profité, mettons. Puis ça m'a comme encore plus aidé entre guillemets, à rentrer mm-hmm. là-dedans. Puis, évidemment, comme on en avait parlé tantôt, la pandémie est arrivée. Et ça a été très difficile, je pense, pour moi et tellement d'autres jeunes filles, peu importe, grandes personnes et tout. On était tellement plus sur nos téléphones cellulaires. On a tout vu comment ça l'avait augmenté, là, notre niveau d'écran. Puis moi, c'est vraiment au niveau que je me comparais tellement plus. Puis c'était tellement facile aussi de juger mon corps et tout. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en pandémie, justement, comme on l'avait expliqué, j'avais envie de me reprendre en main. J'avais envie de reprendre la forme et tout. Et j'ai commencé à suivre beaucoup d'exercices, là, des workouts, là, mm-hmm. que tu mets sur ta télé et tout. Et j'ai décidé qu'il fallait que je commence encore avec ça, commencer à me faire vomir. Fait que c'est comme ça un peu que c'est arrivé là. Ouais.
Si on va plus dans les détails, puis si jamais t'es pas à l'aise, tu me le dis. Là. Oui, moi, je suis avide d'informations, mais si oui. je rends quelqu'un mal à l'aise, je veux qu'on me le dise tout de suite. T'es rentrée au secondaire, t'as eu accès aux médias sociaux. Oui. À ce moment-là, la pandémie n'était pas encore arrivée.
Non, c'est vrai qu'elle n'était pas encore arrivée. Par contre, moi, j'ai...
Qu'est-ce que tu faisais, mettons, entre ton arrivée au secondaire puis le début de la pandémie? Parce que t'as dit que ça a été là vraiment l'élément déclencheur. C'était quoi tes comportements précis à ce moment-là?
C'était beaucoup la restriction. Okay. Moi, j'ai eu un sentiment fort quand j'étais jeune, de manque de confiance en moi, justement. Je me trouvais pas assez belle, puis je voyais comme... J'avais le sentiment de vouloir plaire beaucoup aux gens. Et souvent, les gens aiment tellement les petites personnes, les personnes minces et tout. Puis moi, c'était ça que je voulais. Là. Je voulais plaire aux gens. Je voulais que les gens me trouvent belle en me regardant. Puis moi, dans ma tête, c'était... en étant mince et non en étant avec des formes et tout. Là.
Puis dis-moi, est-ce que tu avais des formes avant? Parce que tu disais que dans ta famille, il y avait beaucoup de surplus de poids. Est-ce que tu faisais partie, tu sais, justement, des personnes de ta famille avec un surplus de poids?
J'avais pas vraiment un surplus de poids. Par contre, il faut savoir que j'étais en croissance et moi, j'ai un côté, je suis à moitié latina. Puis souvent, les latinos, les femmes latinos ont des grosses fesses, ont des grosses hanches. Moi, j'ai hérité de ça. Puis j'en avais extrêmement honte parce que j'avais quand même des plus grosses hanches puis des plus grosses fesses, des plus grosses cuisses que les jeunes filles de mon âge. Mm-hmm. Puis moi, très vite, c'était quelque chose que je voulais cacher, quelque chose que je trouvais laid puis que j'étais comme non, je ressemble pas aux filles normales.
T'étais complexée de ça.
Oui, énormément. Ouais.
Donc, entre le début de ton secondaire et le début de la pandémie, ce que tu faisais, c'était que de la restriction alimentaire.
Oui, exactement. Je voyais mon amie, par exemple, qui ne mangeait pas de dessert. Moi, je me disais, est plus mince que moi, je ne vais pas manger de dessert, moi non plus. Fait que c'était des genres de comportements comme ça où ce que je faisais énormément de comparaisons. Puis je voyais mon... En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je ne me pesais pas dans ce temps-là. Vraiment, c'était vraiment plus mentalement. Là, je me sentais mieux quand je ne mangeais pas. Je mangeais plus mon dîner non plus. À l'école, c'était facile de le cacher à mes parents, t'sais, aller le jeter puis dire à ma mère, j'ai mangé. Fait que ça, c'était vraiment là que j'ai commencé à faire ça là, à l'arrivée au secondaire.
Puis j'imagine que d'une fois à l'autre, de semaine en semaine, de mois en mois, tu devenais encore plus stratégique et tu devenais encore plus bonne actrice, si on veut.
Hey, je trouvais mes techniques puis tout. Puis c'est ça que je trouve énormément triste parce que j'ai vu comment c'était rendu facile pour moi. Puis, tu sais, souvent, avec mes parents, moi, c'était vraiment facile de le cacher. puis d'inventer des mensonges. Puis c'est dommage, mais c'est vraiment ça qui m'a apporté à aller de pire en pire. Là. Mm-hmm. Ouais.
Puis est-ce que tu voyais, y avait-tu des résultats?
Honnêtement, pas tant. Okay. Pas tant. Fait que c'est pour ça que je voulais continuer encore plus. C'est vraiment, comme j'ai dit, c'est de la comparaison. Puis c'est beaucoup de, comment je pourrais dire, un genre de course, là, tu sais, dans le sens que tu veux arriver au résultat le plus vite possible. Fait que si jamais ça fonctionne pas, tu coupes encore plus ou tu te fais vomir encore plus, dépendamment des personnes et tout. Puis ben moi, c'est ça, j'ai commencé à me couper encore plus puis encore plus.
Là, oui. Pardon, ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est un point, c'est que dans le fond, le corps, c'est un je dirais, c'est quelque chose de merveilleux qui est très adaptatif. Donc, ce qui arrive, c'est que quand on restreint, il essaie de s'adapter. Donc, il va diminuer son métabolisme de base. Donc, effectivement, comme Anaïs l'apporte, au départ, des fois, ça n'a pas trop d'impact. Ça n'a pas nécessairement l'impact visé de la personne. Puis, au niveau physique, la personne se maintient quand même. Mais à force de tomber, c'est là qu'on tombe, comme j'expliquais tantôt, dans une espèce de fonctionnement physiologique différent d'un corps qui est en dénutrition. Et là, à ce moment-là, c'est là que ça amène encore plus de pensées. C'est le défi auquel on fait face, parce que la personne, comme tu décris bien, se sent bien, hein, se sent mieux même de restreindre. Puis les pensées deviennent de plus en plus fortes. Alors, c'est comme un cercle infernal. C'est un peu comme une sorte de drogue, si on veut, qu'on devient comme dépendant de ça. Oui. Puis notre corps nous amène dans cette perspective-là aussi. Là.
Quand la pandémie est arrivée, tu as dit que, bon, à ce moment-là, tu t'es mis à faire encore plus d'entraînement.
Oui.
Parce que les médias sociaux, tu étais encore plus là-dessus, tu te comparais encore plus.
Oui.
Est-ce que c'est le fait d'être toute seule aussi, puis que les gens ne te voyaient pas, qui a fait en sorte que tu as pu rentrer là-dedans à fond encore plus qu'avant?
Oui, 100%. Dans le fond, j'avais plus le support émotionnel, je pense, que j'avais, mettons, par exemple, avec mes amis et tout, pouvoir sortir, me changer les idées. J'avais plus ça. Puis il faut savoir que dans ce temps-là, moi, j'étais dans une relation amoureuse, puis je trouvais ça tellement difficile parce que, tu sais, j'étais en comportement alimentaire, puis là, je me comparais encore plus, tu sais, parce que j'étais comme, mon Dieu, imagine, il m'aime plus et tout. Fait que c'était vraiment difficile, la pandémie, pour moi, là, ouais.
Et justement, autour de toi, ton chum de l'époque, tes amis, est-ce qu'ils voyaient ce qui se passait à ce moment-là?
Non. Puis c'est ça qui est très difficile, c'est que souvent, ça se perçoit pas. Puis, tu sais, souvent, il y en a que tu peux le voir, là, mettons, ils sont rendus très, très minces, mais il y en a beaucoup où ce que le comportement, c'est juste un comportement. Tu sais, mettons, juste se faire vomir, des fois, ça apparaîtra pas comme ça. Puis ça fait que, ben tu te rends plus profond dedans, tu commences à avoir des plus gros problèmes, puis il est comme un peu, entre guillemets, trop tard, on le voit pas, là. Non.
Oui, puis ce que tu décris, il faut pas tomber là-dedans, mais souvent, l'entourage tombe dans une espèce de culpabilité parce qu'ils l'ont pas vu venir.
Oui.
Mais c'est un phénomène, comme tu décris, insidieux, puis c'est pas toujours évident à voir. C'est sûr, si la personne est très, très, très amaigrie, comme tu dis, là, à ce moment-là, ça peut paraître visuellement, mais des fois, ça prend un certain temps. Puis surtout, si on vit quotidiennement avec la personne, des fois, on s'en rend un petit peu moins compte que si on rencontre la personne, on ne l'a pas vue depuis 3 mois, puis là, tout à coup, on se rend compte de la situation.
Ouais.
Et bon, tu as dit que durant la pandémie, là, c'est là que tu es venue à vouloir te faire vomir, ce qui fait que ce que je comprends, c'est que tu as fait de la restriction alimentaire, mais est-ce que tu as eu des rages de nourriture aussi?
Oui, bien c'est ça, moi, que je... C'est comme quand même assez touché. J'ai commencé avec un petit peu de l'anorexie, puis ça s'est tranquillement tourné en boulimie. Ça n'a jamais été comme un diagnostic clair.
Ou ouais,
c'était vraiment comme un petit peu... Ça dépendait vraiment de... C'est triste à dire, mais de mon mood, là, comment je me sentais. Aujourd'hui, j'ai plus envie de me restreindre ou tout. Fait que non, c'est ça. Je commençais vraiment par me restreindre au début, puis j'avais un poids fixe. J'avais comme une idée du poids parfait pour moi. Là, souvent, ça, je l'ai entendu souvent des filles qui se disaient « Ah, ben moi, j'aimerais avoir tel poids pour me sentir belle. » Puis, ben ça m'est rentré dans la tête. Puis moi aussi, je me suis choisi un poids fixe. Et au début, la restriction, ça allait relativement bien. Mais à un certain moment, ça descendait plus. Fait que c'est là que j'ai commencé à vouloir me faire vomir parce que j'étais pas assez bien encore, là. Ouais, je voyais, j'étais toujours pas assez mince pour moi.
Fait que l'idée, c'était de garder le moins de choses possible dans ton organisme.
Exactement.
OK.
Ouais. Peut-être juste un point qui est intéressant, ouais, là, ce que tu amènes aussi, c'est qu'il est assez fréquent qu'une personne va osciller, par exemple, ouais, aller de l'anorexie vers la boulimie. On parle de 50 % à peu près selon les études, là, ça peut varier, mais c'est pour donner une idée de personnes qui peuvent passer d'une phase d'anorexie à une phase après ça de boulimie. Donc, l'idée n'est pas de mettre les personnes dans des cases pour dire est-ce que tu es plus boulimique ou plus... Ouais. Mais de comprendre que derrière, au niveau des pensées, c'est à peu près le même mécanisme dans la tête. Ouais. C'est juste que ce qu'on utilise comme mécanisme de défense extérieure ou comportement est différent, tantôt dans la restriction. Puis comme tu dis bien, l'humeur joue entre en jeu, c'est-à-dire que quand on est dans les phases restrictives, souvent les personnes vont dire « je me sens bien, je me sens... » Tu sais, il y a comme une espèce d'humeur un peu euphorisante. Mm-hmm. Alors que quand on est dans les périodes beaucoup plus de boulimie, là, souvent on est dans les périodes plus dépressives ou plus anxieuses ou anxio-dépressives.
On va aller se réconforter, par exemple, ouais, avec la nourriture?
Ouais. Oui, okay, exactement, oui. On l'a souvent entendu, là. Moi, pour me sentir bien, je mange. Bien, souvent, c'est ça qu'on a, nous autres, ici, en tant que boulimie, mais après, on ne peut pas garder tout ce plein de nourriture-là en nous. Là.
Malheureusement, il existe tout un courant qu'on appelle pro-ANA, là, mm-hmm, que, dans lequel on va trouver, dans les réseaux, hein, des réseaux sociaux, tout ça, on va trouver des façons, justement, d'essayer de conserver un poids X ou d'en perdre ou même de berner, si on veut, notre entourage. On parlait tantôt de ça, là, mm-hmm, de berner notre entourage ou notre médecin et tout ça. Donc, j'avertis les gens de faire attention, mm-hmm, à ça puis de savoir qu'il existe cette espèce de... Là-dessus, c'est une drôle de maladie à ce niveau-là. Il y a comme une sorte de fierté, des fois, à essayer d'aller plus loin, comme tu nommais bien tantôt. Là,
oui, hein? Ça, c'est vraiment ça. Intense. Moi, j'ai remarqué ça, surtout entre jeunes. Je sais pas, tu sais, je parle pour vraiment mon cas, mais c'était tellement, comment je pourrais dire, on se comparait énormément entre filles.
Entre filles vivant des troubles de comportement,
oui,
alimentaire?
Oui, OK, oui, OK. Oui.
T'avais un réseau?
Ben, j'avais pas un réseau, c'est plus sur Internet, mettons, oui, mais tu remarques que les gens veulent aller de plus en plus mal, puis c'est vraiment... Puis ils voient comme un positif, genre, de plus en plus...
Comme se dépasser dans le négatif,
ouais,
là.
Exactement. Ouais, okay. Oui, moi, ça m'a tellement... Comment je pourrais dire? Je me suis retrouvée tellement seule parce que je n'étais plus capable de parler et de voir d'autres mondes parce que...
C'est toi qui t'isolais ou c'est les gens, oui, qui t'ont un peu abandonné?
Si tu t'isoles, c'est vraiment une maladie qui te rend seule.
Pourquoi?
Pourquoi?
Je pense que, en fait, ce qui est intéressant, c'est comme si la maladie devient un peu ton amie, si tu,
oui,
veux, là. Puis c'est comme si elle essaie de te faire croire qu'elle remplit tous tes besoins. Mm-hmm. Donc, il y a une forme d'isolation de la personne, mais il y a aussi des fois l'entourage qui... Tu sais, les autres personnes, les autres jeunes, par exemple, peuvent plus savoir comment t'aborder parce qu'ils voient que tu vas pas bien, mais ils savent pas trop comment t'aborder. Mm-hmm. Donc, il y a un peu un mélange de tout ça, là. Puis on parlait tantôt des facteurs prédicteurs ou qui peuvent favoriser. Mm-hmm. Il y a aussi des gens qui, à la base, ont des difficultés au niveau des relations, puis ça peut être quelque chose qui alimente la maladie, pour pas faire un jeu de mots, là, mais qui favorise la maladie. Donc, à ce moment-là, l'isolement devient encore plus fort. Je pense que toi, tu avais moins cette dimension-là, puis je pense que socialement, tu es assez à l'aise, mais c'est ça, il y en a qui... Ça vient comme renforcer ça aussi, donc...
Le savais-tu qu'à ce moment-là, là, avec, été 2020, tu es vraiment entré un petit peu plus intensément dans la maladie, tu le savais-tu à ce moment-là que c'était pas normal ce qui se passait ou tu te le cachais ou... C'est dans ta tête à toi, là, il y avait un problème.
Oui, je le savais, puis je savais que ce que je faisais, c'était pas correct. Je le savais très bien, mais ça m'arrêtait pas. C'était... Mon idée du corps parfait était beaucoup plus forte que mon envie d'être en santé, dans le fond.
Y a-t-il des gens qui ont essayé de t'en parler?
J'ai eu ma famille, je pourrais dire, quand même, un petit peu, parce qu'elle remarquait que je mangeais vraiment moins. Puis moi, dans ma famille, c'est super important. On mange tout le temps nos repas, tout en famille. Tous nos repas, il faut que ça soit en famille. C'est chez nous comme, mm-hmm, ça. Puis ils ont remarqué que je voulais plus manger avec eux parce que j'avais trop cette envie d'isolement, de vouloir manger dans ma chambre. Puis là, ils ont remarqué que, OK, ça, c'est bizarre, c'est pas la Anaïs qu'on connaît, là. Ouais.
Et de quelle manière ils t'ont abordé? Parce que j'imagine que, tu sais, ça s'est fait petit à petit.
Ouais.
Puis toi, ta réaction aussi, tu sais, de quelle manière ils l'ont fait? Puis toi, ta réaction au début, c'était quoi?
Ma réaction, c'était être énormément sur la défensive. Je le prenais pas, puis j'étais fâchée, là, qu'il ait remarqué un peu mon jeu, je pourrais dire. Parce que pour moi, ça allait être plus difficile après de le cacher. Puis évidemment, j'ai pas avoué que je faisais ça, là. Mais tout de suite, là, ça m'a... je l'ai vraiment pas bien pris. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est parce que là, c'est quoi, vous voulez maintenant? T'sais, pourquoi vous avez remarqué que je mange moins et tout? Fait que, ouais, je sais
vous
pas.
Vous m'espionnez.
Ouais, c'est ça, vous m'espionnez, vous remarquez, vous, c'est quoi, vous me trouvez plus belle maintenant? Tu sais, c'était tellement sur la défensive. Mm-hmm. J'étais pas capable de voir comme le réconfort, mm-hmm. au contraire, qu'il voulait me rapporter, c'était plus ces mâles, là, moi. Ouais.
C'est ça, le comportement, oui, c'est ça qu'on voit régulièrement.
Oui, c'est ça, on voit, c'est, dans le fond, c'est une maladie qu'on appelle égosyntone. Mm-hmm. Égosyntone, ça veut dire que ça va avec, c'est comme si on est bien avec, d'une certaine, entre parenthèses, là, je mets bien entre parenthèses ou guillemets, versus quelque chose qui est égodystone. Quelque chose qui est souvent égosyntone, on peut le voir dans la psychose aussi. Par exemple, les gens qui vivent une schizophrénie, quand ils sont dans la psychose, c'est égosyntone. Eux autres ne vont pas trouver qu'ils sont mal. Ils sont à l'intérieur de leur monde, de ce qu'ils vivent. Ils peuvent vivre de la souffrance à l'intérieur, mais il y a comme... Et dans l'anorexie ou la boulimie, on va voir ce côté-là égosyntone. Et c'est ce qui rend l'intervention, justement, plus un défi, c'est d'arriver à ce que la personne prenne conscience de... que c'est pas si positif que ça, c'est quoi les côtés négatifs que ça lui apporte, puis d'essayer de travailler sur des ancrages pour qu'elle voit que, finalement, il y a avantage à aller vers les côtés plus positifs. Mais aussi, un des défis, c'est que plus elle va être, comme je disais, sous-alimentée, la personne, bien, plus les pensées vont être fortes, plus, on pourrait dire, quelqu'un disait dernièrement la force noire, là, tu sais, comme dans la guerre des étoiles, là, tu sais, le côté noir de la force, il va être plus fort si on est dénutri. Donc, il faut nourrir la personne aussi, puis il faut réussir à faire ça dans une espèce d'alliance où là, on est transparent dans ce qu'on voit. Ça ressemble un petit peu quand on approche quelqu'un qui a une problématique de consommation de drogue ou d'alcool, où là, on va... Il faut nommer ce qu'on observe, être à l'écoute de comment l'autre reçoit ça, puis être ouvert à échanger là-dessus, là, sans vouloir absolument du premier coup dire on va changer l'autre personne, mais tu sais, nommer notre inquiétude, nommer les impacts que ça peut avoir sur la personne puis sur l'entourage aussi. Là.
À partir du moment où ils ont vu ton jeu, mm-hmm. là, j'imagine qu'il y a eu d'autres tentatives d'intervenir à ton égard.
Oui, ils ont vraiment essayé beaucoup de me contrôler, puis ça, c'est quelque chose qui me fâche beaucoup de personnes, justement, de voir qu'ils se font... Tu sais, on aime tellement contrôler notre propre façon, fait que quand on voit quelqu'un qui essaye de contrôler, on le prend pas. Puis même si je sais qu'ils faisaient ça positivement, simplement pour m'aider, moi, dans ma tête, je voulais pas aller mieux. Je voulais continuer de mincir, puis d'embellir, là, d'être encore plus belle, tu sais. Fait que je voulais vraiment pas être sauvée, entre guillemets, là, à ce moment-là. Là.
Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, tu sais, pour donner peut-être aussi une idée de comment aussi on interagit quand on est un parent, quand on est un ami de quelqu'un qui vit les troubles de comportement alimentaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de t'aider? Avec le bagage qu'ils avaient, ils ont fait ce qu'ils ont pu, dans le fond, là, tu sais.
Ben, c'est sûr qu'au début, ça a été très difficile pour eux. Mes parents, ils comprenaient pas trop c'était quoi le principe. Ils étaient comme, ben voyons, mange. Ça, c'est facile, mange. Fait qu'au début, c'était OK, ben tu restes avec nous à table et tout. Puis, tu sais, les choses aussi, c'était j'avais plus le droit d'aller aux toilettes après d'avoir mangé, mettons, un certain moment. Mm-hmm. J'avais plus le droit d'aller aux toilettes seule. Fait que c'était un peu rendu toxique dans une certaine façon. Puis, je pense que c'est pas mal à ce moment-là qu'ils se sont dit, OK, on a besoin d'un peu plus d'aide, dans le fond, là. Ouais. Fait que, dans le fond... J'ai été un peu, entre guillemets, obligée de voir mon médecin de famille.
On était rendu à quelle date, là? Mettons que juillet 2020,
ça
a été le début.
Ça serait comme septembre, octobre, là, dans ce coin-là.
Quelques mois plus tard.
Oui, okay. Quelques mois plus tard. Tu sais, là, mes parents se sont dit, là, on a vraiment besoin d'aide. Clairement, elle va pas tant mieux. Puis même moi, je leur remarquais que j'allais pas bien parce que, ben, veux pas, je commençais vraiment à avoir des impacts sur ma santé. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, ça l'arrive. J'avais de la difficulté à l'école parce que j'avais plus de nutriments, donc j'étais tout le temps fatiguée. Mm-hmm. Je commençais, ça c'est quelque chose qu'on en parle quand même un petit peu, je perdais mes cheveux aussi. J'avais tout le temps froid, mm-hmm. parce que j'ai plus de nutriments encore là. Maux de tête, maux de ventre, de la constipation, tout simplement.
Est-ce que tes règles ont été affectées?
Oui, mes règles ont été affectées. Il y a quelques moments où je les avais pas, c'était super irrégulier. Puis là, je me suis rendue compte que, mon Dieu, que ça allait pas tant bien, puis que finalement, j'étais peut-être pas dans le bon chemin, tu sais. Puis ma mère m'a comme mise sur un rendez-vous avec mon médecin de famille, puis aussi, ben je voulais parler de tout ça. Moi, dans ma tête, c'était pas nécessairement relié à mon trouble alimentaire. Là. Dans ma tête, c'était plus genre, j'allais mal, peut-être j'avais une maladie et tout. Puis là, je leur ai parlé de ça. Moi, comme ça, ben tranquille. Puis là, ils m'ont dit, ça devrait aller en psychiatrie. Là. Ça devrait pas rester comme ça. Là. T'as besoin de plus d'aide. Puis, moi, je comprenais pas. J'étais comme, ah ouais. T'sais, j'avais jamais vraiment eu d'aide. Fait que j'étais comme, non, ça me tente pas tant que ça. Dans le fond, j'ai commencé justement avec une infirmière qui me suivait environ à toutes les semaines. Ensuite, j'ai commencé un parcours en thérapie. Je trouvais ça super important. Puis ma thérapeute était spécialisée dans les troubles alimentaires. Fait que ça m'a fait hyper du bien. Ensuite de ça, mes parents aussi avaient besoin d'aide parce que souvent, on n'en parle pas, mais nos parents aussi, ils veulent nous aider et tout. Oui. Fait que mes parents ont décidé d'aller rencontrer une travailleuse sociale pour avoir plein de techniques. Puis ça, je sais que ça leur a été hyper aidant. Donc ça, c'est très positif. Et j'ai rencontré aussi une nutritionniste pour m'aider à comme faire un genre de plan alimentaire. Rien de obligatoire. Tu sais, des fois, ça peut faire peur, le nutritionniste, là, va t'obliger de faire des affaires.
Un régime, là.
Ouais, c'est ça.
Même un peu,
oui,
là.
C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment plus dans le sens de voir quel aliment me rapporte quel, mettons, positif, quelles protéines, quels aliments sont plus forts en lipides, par exemple. Mm-hmm. Puis c'était beaucoup de qu'est-ce que toi, tu trouves facile à manger, puis comment on peut t'aider. Puis c'était des petits défis aussi. Ça, je trouvais ça quand même assez le fun. Des petits défis de, OK, cette semaine, ben j'essaye de manger une collation. Okay. Fait que moi, c'était comme un peu mon processus qui m'a aidée, là.
Docteur Gingras, on parlait justement tantôt plan alimentaire, culture des diètes et tout ça. On est là-dedans, je veux dire, on s'en fait vendre à longueur de journée, là, si le moindrement on est attentif à ça. Est-ce que ça peut mener à des troubles de comportement alimentaire?
Mais comme j'expliquais plus tôt, c'est sûr que s'il y a des facteurs prédisposants, à ce moment-là, ça peut être un des facteurs. D'ailleurs, quand on rencontre les gens pour la première fois, on établit un peu une espèce de tableau pour chaque personne, chaque famille, de facteurs prédisposants, précipitants, qu'est-ce qui peut perpétuer, mais aussi les forces, hein, parce que tantôt on parlait des éléments, oui, il y a des éléments négatifs, mais dans une famille, une personne, même si elle a la maladie, il y a des forces aussi, et puis les forces, il faut aller les chercher, parce que c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer là, pour aller de l'avant. Alors, c'est sûr que le phénomène de régime, puis ça demande aussi autant comme intervenant que comme parent, comme les personnes qui accompagnent les gens qui vivent un trouble alimentaire, de aussi s'auto-observer, là, oui. Parce qu'on a tous des positionnements face à la nourriture, puis on a tous je pourrais appeler même certains mythes par rapport à la nourriture, des croyances, ouais. C'est ça. Donc ça aussi, il faut le regarder, puis être capable de le critiquer, puis de se questionner là, par rapport à ça. Aussi dans ça. Puis dans le cheminement qu'Anaïs décrivait, ça ressemble pas mal les ingrédients. C'est sûr que les programmes peuvent varier un petit peu d'une place à l'autre dans la structure, tout ça, mais assez souvent, on retrouve des ingrédients. Bon, tu parlais de la nutritionniste, un aspect familial ou systémique, donc travailler avec les parents, la famille, et après ça, ben, tu parlais de suivi individuel. Les bases de traitement, on est sur des bases cognitivo-comportementales, donc reconnaître, bien expliquer c'est quoi le problème pour après ça s'exposer. Nos nutritionnistes, c'est des nutritionnistes qui sont formés justement à ces approches-là. Donc, comme tu disais, c'est pas juste dire, ben là, c'est ça qu'il faut que tu manges, mais aussi des fois même établir une hiérarchie d'aliments anxiogènes. Donc, dire, ben, mais quels sont les aliments? Donc, on va pas commencer par les aliments plus anxiogènes, on va y aller par étapes.
Ce serait quoi, par exemple, un aliment anxiogène, si on parle de ton cas, Anaïs?
Mon cas, moi, c'était beaucoup tout ce qui était sucré et gras. Mais tu sais, honnêtement, ça change tellement tout le temps, là.
Parce que dans le fond, quand tu dis anxiogène, juste pour que je puisse bien comprendre, si on te disait, tu pourrais manger, par exemple, un morceau de biscuit ou peu importe, toi, est-ce que c'est parce que tu avais, dans ta tête, tu disais, c'est sûr que si je mange ça, je vais passer à travers la boîte, ou si je mange ça, je vais prendre du poids?
Je vais prendre du poids.
OK.
Ouais, okay, c'est comme très facile à le voir, là, okay. Mais moi, dans ma tête, c'est ça, c'était, dès que tu manges quelque chose, tu vas prendre du poids.
Okay.
Donc, c'était vraiment comme certains, beaucoup des aliments là, gras, riches, tu sais, ou des aliments, tu sais, comme vraiment, des fois, c'était très simple. Mettons, les patates, moi, j'avais la difficulté parce que ça bourre beaucoup. Oui. ça, c'était des aliments que j'avais vraiment plus la difficulté là, avec.
Quelqu'un aurait pu avoir, par contre, la peur que vous décrivez là, de perdre le contrôle. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important de s'intéresser à la personne, pour voir vraiment, tu sais, cette personne-là, c'est quoi ses craintes, c'est quoi ses besoins. Oui, il y a la maladie, mais ça peut s'exprimer tellement différemment d'une personne à l'autre. Puis c'est là qu'on va trouver les bons outils d'intervention. Là. Puis bien sûr, chez les plus jeunes, là, juste pour terminer, au niveau de l'intervention, il y a aussi vraiment, quand je parlais de l'approche familiale, il y a un type d'approche là, qu'on appelle, bon, en anglais, family-based therapy, donc de vraiment travailler, à aider les parents. Tantôt, tu parlais de prendre le contrôle, pas prendre le contrôle, mais plutôt à être en accompagnement de leur jeune pour essayer d'aider la personne à s'exposer. Chez les plus jeunes, c'est rare que les personnes vont s'exposer d'eux-mêmes. Là. Donc, les parents ont besoin souvent de s'impliquer pour aider. Déjà, tes parents avaient eu de façon instinctive, tu sais, l'idée qu'on va remettre des rites de vie, elle va venir manger avec nous. Donc, essayer que la personne ne s'isole pas, tout ça, là, fait que ça, c'est des choses qu'on va aider les familles à accompagner leurs jeunes avec cette situation-là.
Puis, tu sais, alors que tu étais en plein dedans, tu étais fâchée après tes parents. Maintenant, là, j'imagine que le comportement est différent. Est-ce que tu es reconnaissante?
Je ne pourrais jamais les remercier assez. Okay. Ils ont toujours, même si des fois ils ont eu des questionnements puis ils ont eu des craintes, ils ont été toujours avec moi puis 100% genre supportant.
En support,
exactement.
Pas le dire demain.
C'est ça, exactement. Ils voulaient toujours. En fait, leur but profond, c'était juste m'aider. Puis oui, des fois, peut-être qu'ils ont eu des difficultés, mais ils ont été là, puis ils ont essayé de m'aider, puis ils ont fait leur meilleur. Fait que jamais je pourrais les remercier assez, là. Ouais.
Est-ce que le mot psychiatrie, ça fait peur quand tu te le fais dire?
Ben oui. Hey, le mot psychiatrie, ça fait peur. Moi, honnêtement, ce que je voyais, c'était un fou attaché, là, tu sais. Parce que c'est comme ça qu'on se le fait présenter et tout. On le voit pas comme positivement, au contraire. Fait que c'était vraiment un mot qui me faisait peur, puis que je voulais pas avoir, mais en même temps, j'étais soulagée de me dire, OK, mais je suis pas tout seule, dans le fond. Il y a plein de personnes comme moi là, qui ont aussi ce problème-là, puis il y a des spécialistes qui sont sur ça, concentrés sur ça, parce que justement, c'est un problème de santé mentale, genre. Fait que ça, c'était un peu de la... J'étais rassurée aussi. Puis ça a été très vite, moi, que j'ai été admise là-bas, là, puis... Déjà, là, dès les premiers rendez-vous, je sais pas, moi, ça a été miracle. S'il y en a que ça marche pas, mais moi... Tout de suite, ça a été quelque chose qui m'a énormément
Est-ce que
aidée.
Dès le début, vous avez été jumelées l'une à l'autre?
Oui, je pense que oui. Okay. Ouais. Mais de ce que je me rappelle, moi, j'ai toujours gardé la même pédopsychiatre. Là. Fait que oui, je l'ai eu tout le long, là, pas mal. Il y a un seul petit moment où j'ai arrêté de la voir parce que j'avais commencé à faire l'hôpital de jour. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée, si jamais...
C'est quoi l'hôpital de jour?
Ben, dans le fond, c'est un hôpital de jour, un hôpital comme si tu vas à l'hôpital normal. C'est comme un peu ta deuxième école. À tous les jours, tu vas là-bas et tu vous fais des ateliers. Ça peut être, tu peux y aller pour n'importe quoi. Là. Moi, je suis allée pour troubles alimentaires, mais j'avais aussi d'autres comportements que c'est pas nécessaire, mais en tout cas, d'autres problèmes. Il y en avait plein qui étaient pour d'autres raisons, l'automutilation, pensée suicidaire. Tu vas là-bas.
C'est tous des jeunes, oui, j'imagine?
En fait, ça vise beaucoup la question de comment on régule nos émotions.
Oui. Okay.
Anaïs avait... passer les premiers stades qui étaient, bon, la réalimentation, tu sais, quand t'es allé vers l'hôpital de jour, on était vers, souvent, c'est, là, on arrive à une étape, puis on dit, ben puis c'est sûr qu'il faut que la personne veuille aussi.
Oui.
Donc, la personne s'est dit, ben moi, je veux peut-être aller pousser un petit peu plus loin, je veux comprendre comment mieux reconnaître mes émotions, comment mieux les gérer. L'hôpital de jour, c'est vraiment autour de cette optique-là. Donc, on peut avoir, comme tu dis, là, des gens qui ont une problématique alimentaire, mais ça peut être d'autres choses. Là, t'sais. Autrement dit, si la personne régule mal ses émotions ou les reconnaît pas bien, mais comment elle les gère, ben ça peut être par de la restriction alimentaire, mais ça peut être aussi par, tu parlais
l'automutilation.
Oui. Tout ça. Fait que puis ça, c'est quelque chose qu'on va proposer quand on arrive à cette étape-là. C'est sûr que si la personne est très, très dénutrie, comme je disais tout à l'heure, là, à ce moment-là, c'est pas l'optique numéro un. Non. À ce moment-là, on est mieux de stabiliser le métabolisme, d'aider la personne à se restructurer à ce niveau-là pour après ça aborder des choses un petit peu plus peut-être sous-jacentes à la problématique, là, tu sais, qu'on pourrait dire. Là.
Et docteur, je continue avec vous. Bon, les parents d'Anaïs ont pris rendez-vous avec le médecin de famille, puis c'est ce qui a mené en psychiatrie. Mais à partir du moment où elle aurait... j'imagine, bon, un, que ça devait être le bon comportement à adopter en tant que parent, et de deux, si Anaïs aurait dit non en bloc, elle aurait refusé, on fait quoi après si la personne elle-même refuse des soins? En tant que parent, on veut le bien, mais en même temps, on ne peut pas continuer à entretenir un environnement toxique où il faut l'accompagner aux toilettes et tout. Et
non,
tout,
mais...
là, tu sais, c'est... Des fois, on peut être pris en tant que parent. On aime notre enfant, mais on ne veut pas non plus, tu sais...
Oui, puis des fois aussi, on n'a pas nécessairement accès à un médecin de famille. Non. Donc, c'est sûr que ça a été une approche qui a été, je pense, très positive de la part des parents d'Anaïs, c'est d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher avec le médecin de famille, tout ça. Puis, Anaïs, même si, comme tu disais, tu comprenais pas nécessairement le pourquoi, mais tu avais quand même une partie de toi qui avait l'air de dire, ben, OK, je vais y aller. Ouais. Mais comme vous nommez, c'est pas toujours facile. Dans la région de Québec, on a quand même structuré une trajectoire, je pense, intéressante avec ce qu'on appelle des évidences, c'est-à-dire qu'on a défini... quand quelqu'un a ce type de comportement-là, là, je parle des moins de 18 ans, là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut appeler même au 811. Donc, vous pouvez être un ami, un parent, puis dire, ben là, je ne sais pas trop quoi faire, tu sais, face à cette situation-là. Puis là, on va avoir un accompagnement. Puis, ça peut être dirigé vers ce qu'on appelle une infirmière navigatrice qui peut même rencontrer la jeune. Donc, tout ça dans une optique de tranquillement aller vers le bon service. Puis, à ce moment-là, la personne peut être dirigée soit vers le centre de pédopsychiatrie, comme toi, ça a été ton cas, ou il y a d'autres ressources dans la région. Par exemple, on a des ressources communautaires, on a l'éclaircie, on a CEPIA. Donc, il y a différentes ressources qui peuvent être aidantes. Puis, des fois, les personnes vont trouver ça moins, comment je pourrais dire, brusquant d'aller vers la ressource communautaire plutôt que d'aller directement, comme tu disais, en psychiatrie. Là. Donc, ça peut être des étapes là, entre tout ça. Puis si vraiment la personne, on est inquiet, puis on dit, ben là, vraiment, sa santé est vraiment en difficulté, ben là, on peut aller aussi vers l'urgence et puis à ce moment-là, avoir une consultation à l'urgence pour évaluer l'état de situation, pour ne pas se rendre, parce que des fois, on peut se rendre avec des conséquences physiques, dont par exemple un ralentissement cardiaque, donc il peut avoir des impacts quand même pour la santé. C'est une des maladies les plus mortelles de la psychiatrie, là, en psychiatrie. Et c'est une des maladies avec le plus, on appelle de morbidité, donc de conséquences sur le fonctionnement, la santé. Ouais. Tu décrivais bien tantôt des symptômes physiques là, qui peuvent être associés à la dénutrition. Là,
le suivi s'est fait sur 3 ou 4 ans, si je ne me trompe pas.
3 ans environ.
3 ans.
Oui.
Docteur, quand vous regardez Anaïs aujourd'hui, que vous la comparez à il y a 3 ans, qu'est-ce que vous voyez de l'évolution d'Anaïs?
Bien, moi, ce que je vois, c'est... Bien, premièrement, c'est une personne qui a vraiment appris à se connaître. Hein. Je pense qu'elle a appris à développer ses ressources. Donc, on a souvent des ressources internes qu'on connaît pas, puis tout ça. Donc, je pense que le cheminement lui a permis de mieux se connaître, apprendre justement à réguler les émotions, tout ça. Je pense que tu as aussi bien compris l'impact de la maladie, puis c'est de... Autrement dit, elle a découvert peut-être qu'elle avait certains besoins à la base, que la maladie avait répondu à un moment donné de façon satisfaisante, mais que là, ça devenait pathologique ou toxique, comme tu nommais tantôt. Hein, je pense que c'est... Puis, ben moi, je trouve que c'était déjà une belle personne à la base, mais c'est juste comme déployer encore plus là, vers des choses que tu peux actualiser, je pense. Hein?
Comment tu régules tes émotions maintenant?
Moi, ce que j'ai fait beaucoup, c'est sortir dehors, prendre du temps avec ma famille. J'ai trouvé plein de choses que j'aime, lire, écouter de la musique, jouer avec mon chien. C'est tout des trucs tellement faciles, mais que des fois, on voit pas. C'est ça que moi, j'avais beaucoup de la difficulté dans ma tête, c'était miraculeux. Des fois, il faut que tu essayes, puis ça ne fonctionne pas, puis c'est pas grave, puis essaye autre chose, puis si tu vas mal de temps en temps, c'est normal, c'est correct, mais il ne faut pas que tu abandonnes, tu sais. Puis même si ça semble si simple là, d'aller caresser ton chien pendant 10 minutes, ben si ça t'aide, ben c'est parfait de même, puis continue, c'est ça, là, ouais.
Est-ce qu'on peut sortir des troubles alimentaires complètement? Là, je comprends que le dossier a été fermé, mais est-ce que les troubles de comportement nous suivent malgré tout, jusqu'à la fin de nos jours? Est-ce que, malgré la thérapie, malgré le fait, bon, que le dossier soit fermé, est-ce qu'on a toujours une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête? Genre, on est toujours susceptible de redévelopper quelque chose par la suite, vu qu'on l'a déjà vécu?
Bien, moi, j'aurais tendance à dire que oui. Parce que ce qui est difficile, c'est que le trouble alimentaire, c'est sur la nourriture, et la nourriture, tu vas l'avoir toute ta vie. Toute ta vie, tu vas voir des calories. Fait que c'est tellement facile de te comparer comme ça. Mais c'est ça, je pense pas qu'on peut en guérir, mais on peut tout le temps s'améliorer, oui, à aller mieux. Tu sais, moi, c'est sûr que je vais avoir encore des difficultés, puis des fois, c'est vrai qu'il y a des jours que je suis comme, oh, peut-être que je mangerai pas ça, mais est-ce que ça fait de moi que je suis de retour dans mes troubles alimentaires? Pas du tout, là. Ouais.
Non, c'est ça. Je pense que, ben, tu sais, si on regarde dans les études, ça se répartit en 30%, 30%, 30%, mm-hmm, là, c'est-à-dire 30% qui vraiment se sentent quand même assez solides, mais comme tu dis, ils peuvent peut-être avoir, bon, peut-être des petites fragilités des fois par rapport à des thèmes ou des sujets comme les,
oui,
calories.
Ou des moments dans la vie aussi. Moments, ben oui, oui, c'est aussi, ça, des périodes, c'est ça, plus difficiles. Oui.
Après ça, vous avez un 30% qui reste avec quand même certaines préoccupations, puis des moments plus intenses, justement, dans des périodes de vie où il y a des stress. Alors ça, on va le voir. Puis après ça, il y a un 30% des gens qui restent quand même dans la maladie, là, de façon plus chronique. Puis chez qui, ce qu'on essaie de travailler, c'est l'adaptation, c'est de comment j'apprends à vivre, mm-hmm, comme avec une autre maladie qu'on a plus chroniquement, comment j'arrive quand même à faire ma vie malgré cet impact-là. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a quand même un bon pourcentage qui, avant, mettons, l'anorexie, avait aussi un trouble anxieux. Donc, des fois, oui, ces personnes-là vont rester avec l'anxiété, mais ils vont apprendre à vivre avec leur anxiété. Parce que dans la vie, comme tu dis bien, là, des fois, ça va mal. Faut comment, oui, mais comment je peux apprendre à gérer les choses malgré le fait que j'ai une tendance peut-être un petit peu plus anxieuse que la moyenne?
Anaïs, tu as commencé à faire des études en soins infirmiers. Y a-tu, oui, un lien, tu penses, avec tes troubles de comportement alimentaire?
Ouais. Ben oui, dans le fond, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je vais être en position d'autorité. Je vais devoir aider des gens qui vont aller mal. Je ne connais pas leur situation, puis je vais les aider, je vais leur donner des trucs, des techniques, des conseils. Il faut que je les applique à moi aussi. C'est, wow, ça que j'ai vu ça un peu comme ça, pour aider. Tu sais, la phrase « pour aider quelqu'un, il faut que tu t'aides soi-même en premier oui. ». Moi, ça a été comme mon déclic là, en rentrant en soins infirmiers. Je me suis dit, si tu veux aider d'autres personnes, il faut que toi aussi t'ailles bien, puis que tu sois prête à te concentrer juste sur eux. Puis moi, ça a comme été vraiment mon déclic. Je me suis dit, il faut que j'aille mieux, puis il faut que je m'aide. Puis après, je vais être prête à 100% à donner de ma tête à mes patients que je vais avoir prochainement. Là. Fait que, ouais.
Puis jusqu'à maintenant, ça fait quelques mois à peine que tu as commencé. Oui. Comment t'aimes ça?
J'adore ça. Oui. Je trouve ça vraiment le fun. Il y a plein de sujets qu'on parle que justement, je me sens que je peux parler un peu, mm-hmm, que j'ai déjà vécu. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que, veux pas, oui, c'est négatif, un problème de santé mentale, mais tu vas toujours en apprendre, puis ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Puis moi, je trouve que c'est quelque chose que, oui, ça a été très difficile, mais je pourrais pas me changer, puis c'est comme ça que je suis, puis c'est la vie, là. Puis il faut que je vive avec, puis j'apprenne à m'aimer pareil, puis que de pas me taper sa tête à cause de ça.
On parlait beaucoup des médias sociaux tout à l'heure, puis tu as dit que ça a vraiment pas aidé à ta cause. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui est beaucoup sur ses médias sociaux, puis qui regardent des comptes de personnes avec des corps inatteignables, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces gens-là?
Bien, c'est vraiment de faire attention à ce que tu regardes, justement, puis que les réseaux sociaux, c'est tellement fake, puis c'est facile à atteindre. Mais sache que souvent, derrière cette personne-là, il n'y a pas nécessairement de la joie. T'sais, on ne sait pas si cette personne-là est vraiment heureuse dans ce corps-là. Là. Fait que c'est de garder cette image et cette idée que ça ne va pas te rapporter la joie infinie. Puis que tu seras probablement... Ben, ça sera... L'effet de joie va être temporaire. Fait que, ouais.
Ouais, je pense que ce qu'on réalise de plus en plus, c'est comment les médias sociaux, surtout à cause des algorithmes là, qui sont présents dans la structure, on le voit là, dans les médias actuellement, on en parle, mais comment ça peut devenir toxique pour une personne, pas juste pour la problématique d'anorexie. Donc, être conscient de ça, donc limiter le temps qu'on passe sur les médias sociaux, ça veut pas dire de les bannir, parce que ça a des côtés, on va voir qu'il y a des côtés positifs aussi, d'échanger avec d'autres et tout ça, fait que ça, faut pas comme bannir ça totalement, mais faire attention au temps qu'on va passer, quand on est parent aussi, de voir être plus attentif à ce que nos enfants peuvent faire comme accès justement sur les médias sociaux. Puis le temps, je pense, c'est un élément important que la personne, tu le disais tantôt, tu sais, on en parlait, comment le fait d'échanger avec des vraies personnes en personne, ça a un impact tellement positif versus être en ligne tout le temps. On le voit même quand on n'a pas nécessairement de problématiques alimentaires. Comment si pendant des périodes, on est juste sur notre ordinateur ou sur notre téléphone, on se coupe de l'extérieur, donc Vous savez, notre cerveau, en général, retient beaucoup plus les choses négatives que les choses positives.
Malheureusement.
Il est fabriqué comme ça. Alors, c'est sûr que si on est tout le temps sur des images plus négatives, bien, on finit par rester dans ce monde-là puis avoir les choses comme ça. Là.
Et en terminant, la question redoutée de tous les invités, la plus difficile.
Ouais.
Si vous aviez un rendez-vous, parce que le balado s'intitule « Santé sans rendez-vous », si vous aviez un rendez-vous à prendre avec quelqu'un, mort, vivant, fictif, réel, peu importe, il n'y a pas de limite, ce serait qui et pourquoi?
Dans le fond, c'est une très belle question. Puis moi, je pense que, en fait, je suis certaine que la personne que je souhaiterais, qui souhaiterait parler, c'est mon père, dans le fond. Parce que mon père est décédé de façon subite à l'âge de 60 ans, puis j'ai pas eu la chance de pouvoir discuter avec lui. Bon, ne serait-ce qu'un peu avant sa mort, pour tu sais, on aime bien quand quelqu'un est sur le point de partir, pouvoir échanger mm-hmm. des choses, mais aussi avoir son point de vue sur des choses de la vie, parce que c'était quelqu'un qui avait un point de vue intéressant, puis qui était... Je pense, en tout cas, il m'aurait apporté beaucoup. Donc, si j'avais cette possibilité-là, je serais très contente de pouvoir l'apprendre.
C'est beau.
Oui, fait que dans le fond, moi, j'ai pas pensé vraiment à quelqu'un, j'ai pas trouvé quelqu'un personnellement, mais c'est plus un message à tout le monde qui va vivre ou qui passe par ça là, en ce moment. C'est que vous êtes beau et belle à votre façon, puis vous n'avez pas besoin d'être comme tout le monde. Puis sachez que on s'en sort un jour. Puis allez chercher l'aide que vous avez besoin, n'ayez pas honte, puis parlez-en beaucoup. Ouais.
Avoir les étoiles que tu as dans les yeux, Anaïs, c'est beau, c'est même super émouvant. Je suis vraiment touchée par ton message.
Merci.
Vraiment, d'après moi, tu vas en toucher une méchante gang. Alors, Anaïs Gavidia, 17 ans, étudiante en soins infirmiers, qui a vécu les troubles de comportement alimentaire et qui s'en est sortie. Merci beaucoup. Et docteur Nathalie Gingras, psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, merci énormément. Quel bel échange. J'ai pas vu le temps passer. Et d'ailleurs, toutes les ressources qui ont été nommées seront dans le lien du balado. Mesdames, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci.